Bonjour à tous. Les communes vont-elles torpiller les promesses d'Emmanuel Macron? La taxe d'habitation devait baisser pour 80% des Français, mais plus de 6000 communes ont décidé de l'augmenter sans que le gouvernement ne puisse rien faire. Des maires de gauche et de droite, le gouvernement contre-attaque. Du nouveau également aux pompes à essence, les carburants changent de nom aujourd'hui. Une lettre et un chiffre désormais, comme le prévoit une directive européenne. Est-ce que l'on s'y retrouve? J'ai testé pour vous, comme tous les vendredi, j'ai testé pour vous une pompe à essence à Toulouse.
Si je mets du V7 au lieu du E5, là, il se passe quoi alors dans ma voiture hein? Écoutez, ça devait être ce que je vais faire. Je vais demander à mon mari de mettre de l'essence, de s'en occuper. Et à l'Europe, merci encore.
Reportage à suivre de Frédéric Bourgade. L'invité du journal sera le généticien Axel Kahn. Il nous expliquera comment des chercheurs chinois ont pu donner naissance à des souriceaux à partir de deux souris femelles. Se reproduire entre êtres vivants du même sexe, science-fiction ou révolution, nous serons donc avec Axel Kahn. Ça pourrait ressembler à une bonne nouvelle pour la direction du Parti Socialiste. Une voix dissidente s'en va. Emmanuel Morel rallie la France Insoumise. Alors Laurence Perron, bonne ou mauvaise nouvelle pour le PS ?
Une très mauvaise nouvelle pour le PS qui perd encore un peu de sang. Une très bonne nouvelle pour la France Insoumise qui se voit aujourd'hui comme la force centrale à gauche.
Votre analyse à suivre, Laurence. À suivre, le prix Nobel alternatif de littérature remis à l'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé et l'incroyable série de Kylian Mbappé. 4 buts dimanche avec le PSG, 1 but hier soir avec l'équipe de France et la couverture du magazine américain Time cette semaine. La météo, bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Le temps est estival.
Eh oui, quasiment 20 à 29 degrés cet après-midi, beaucoup de soleil. On trouve tout de même des nuages sur le Languedoc-Roussillon et l'ouest de la Bretagne avec quelques gouttes et du vent fort.
Et pour ce week-end, Élodie?
Un début de week-end très estival, soleil et chaleur. Et puis ce sera automnal dimanche, plus frais, plus vieux. On surveillera d'ailleurs à nouveau le Languedoc-Roussillon.
A tout à l'heure en fin de journal, Élodie. France Inter. Marine Le Pen a passé la matinée au Palais de Justice de Paris. La présidente du Rassemblement National, ex-Front National, y est arrivée discrètement. Les juges d'instruction qui l'ont déjà mise en examen dans l'affaire des assistants des élus FN au Parlement européen l'ont à nouveau entendue sur ce dossier. Bonjour Sarah Guibaudeau.
Bonjour.
Les magistrats ont aggravé la mise en examen de Marine Le Pen.
Oui, les visites de Marine Le Pen au Palais de Justice sont peut-être trop rares aux yeux des juges d'instruction qui doivent à chaque fois la convoquer plusieurs fois avant qu'elle n'accepte de venir. Et ce matin, elle n'est donc pas restée très longtemps dans leur cabinet, refusant une nouvelle fois de répondre à leurs questions. Mais Marine Le Pen a vu sa mise en examen s'élargir au délit de détournement de fonds publics, passible dans le code pénal de 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende, soit une peine supérieure à ce qu'elle encourait jusqu'ici pour abus de confiance. Les faits, eux, ne changent pas. 17 élus ou anciens élus de ce qu'on appelait le Front National sont soupçonnés d'avoir payé avec les fonds du Parlement européen des assistants qui travaillaient en réalité souvent au siège du parti à Saint-Cloud. Parmi ces élus figure aussi Jean-Marie Le Pen, dont les juges ont demandé la levée de l'immunité parlementaire. Le Parlement européen estime son préjudice à 7 millions d'euros. C'est ce qui avait justifié la saisie conservatoire de 2 millions d'euros de subventions publiques, saisie ramenée à 1 million après l'appel du Rassemblement national qui a mis en avant ses difficultés financières.
Merci Sarah Guibaudeau. Le procureur vient de requérir au procès de Vosgier Yanovsky, accusé d'avoir fait assassiner sa belle-mère, Hélène Pastor, l'une des plus grosses fortunes de Monaco. Le procureur demande la réclusion criminelle à perpétuité, doublée d'une peine de sûreté de 22 ans. Une peine maximale pour lui rappeler le prix de la vie. Voilà ses mots devant la cour d'assises à Aix-en-Provence. Sur place pour France Inter, David Di Giacomo.
Yanovsky a oublié le prix de la vie, tonne l'avocat général. Oublier le prix de la vie quand il paye les tueurs à gages d'Hélène Pastor avec l'argent de sa propre compagne, qu'elle-même recevait de sa mère, exécutée à Nice à bout portant. Le gendre polonais, cet imposteur, poursuit le magistrat, a oublié le prix de la vie quand il a proposé au tueur un bonus de 20 000 euros pour éliminer le chauffeur d'Hélène Pastor. 20 000 euros, voilà ce que vaut une vie humaine à Seine-Pierre Cortès. 20 000 euros, c'était aussi le bonus fixé pour voler le sac à main d'Hélène Pastor et faire croire à une diversion. On ne peut pas faire mieux dans le registre de l'ignominie, conclut Pierre Cortès. Pour avoir joué avec la vie des autres et avoir oublier le prix de la vie. L'avocat général réclame contre Janowski la perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. À la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, David Di Giacomo, France Inter.
L'avocat général a également requis deux autres peines de réclusion criminelle à perpétuité contre les exécutants de ce double assassinat. Et puis contre Pascal Dauriac, le coach sportif de Janowski qui avait organisé le guet-apens. L'accusation demande 30 ans de réclusion. Verdict attendu mercredi prochain.
France Inter.
Il est 13h05, la taxe d'habitation va baisser sur 3 ans et finira par être supprimée. Vous vous souvenez de cette promesse centrale d'Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle, promesse qui concernait 80% des foyers français. Les premiers avis d'impôts locaux arrivent ces jours-ci dans vos boîtes aux lettres. Les communicants du gouvernement promettaient, vous vous souvenez, un trimestre magique pour le pouvoir d'achat des Français. Alors, baisse généralisée, trimestre magique, pas tout à fait. Dans plus de 6000 communes, la taxe d'habitation augmente. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Quelques exemples avec vous.
Une mauvaise surprise, oui, par exemple, pour les habitants de Grand Chaumont, près de Sochaux, en grande difficulté financière. Le maire de la petite commune décroche le record des augmentations de la taxe d'habitation 2018, avec 30% de plus cette année. Record également pour les villes de Puget-sur-Argent, du côté de Fréjus, avec plus 20%, plus 20% également à Dourges, dans le Pas-de-Calais, ou encore à Mouy, 20% supplémentaire dans l'Oise, près de Paris. La majeure partie des augmentations reste fort heureusement autour de 5% pour près de 5000 communes concernées. Un mouvement anticipé également par Bercy qui a pris soin d'insérer cette année une ligne supplémentaire en haut de la feuille d'imposition. Façon de bien marquer la décision du maire d'augmenter ou non la taxe d'habitation. Mauvaise manière, dénonce l'Association des maires de France.
Laurent, qu'est-ce qui s'est passé pour que la taxe d'augmentation augmente dans plus de 6000 communes en France ?
Alors avant la disparition totale de cette taxe d'habitation annoncée en 2022 par le gouvernement, la tentation était grande pour certains maires de renflouer les caisses de nombreuses mairies en difficulté. Il n'y a pas de dérive gestionnaire, avance l'Association des maires de France, mais seulement des collectivités souvent en grande difficulté financière. Augmenter cette taxe d'habitation aujourd'hui permettrait également de voir le montant de cette compensation future à venir augmenter lorsque l'État devra verser aux communes l'intégralité de la taxe d'habitation. 2022. Nous sommes donc dans un éternel jeu de vases communicants, explique l'Association des maires de France, qui se demande pourtant si le gouvernement compensera bien également ces augmentations constatées cette année ou ne retiendra que la photographie de l'an dernier.
Voilà, il s'agit bien de la taxe d'habitation et pas la taxe d'augmentation. Lapsus extrêmement révélateur. Gérald Darmanin, le ministre du Budget, était dans le Figaro ce matin. Il accuse les maires des villes concernées d'avoir augmenté les taxes d'habitation. Chantilly, par exemple, dans l'Oise, ville LR, dont le maire fut longtemps Éric Woerth, aujourd'hui député et président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Éric Woerth explique que les mairies pouvaient difficilement faire autrement.
J'ai entendu Gérald Darmanin dire « Mais mon Dieu, les maires ont augmenté ». Mais évidemment, enfin, c'est une plaisanterie. Tous les ans, il y a à peu près 6 à 7 000 collectivités qui augmentent les taxes d'habitation. Parce que souvent, elles ne l'ont pas fait pendant des années. Si le gouvernement dit, mais si les collectivités qui sont des mauvais élèves, pas du tout. À ce moment-là, le gouvernement, il devait compenser, suivre la dynamique des taxes d'habitation, tôt compris. Il ne l'a pas fait. Donc, tant qu'il laisse perdurer la taxe d'habitation, en fait, il la laisse perdurer. Il ne modifie pas la liberté des collectivités de fixer leur taux. Et qui, en plus, il baisse les dotations. Pour beaucoup de collectivités, c'est assez logique que les élus locaux continuent à jouer leur rôle, protègent les services publics chez eux. On voit bien que le gouvernement est dans les cordes, complètement dans les cordes. Il pensait que ce serait très visible, ça l'est moins. Il pensait que ce serait un débat qui tournerait à son avantage. C'est toujours, évidemment, agréable de dire qu'on baisse un impôt, mais que les choses, dans la réalité, ne sont pas aussi simples que ça. C'est-à-dire que les Français ne comprennent rien à ce que fait le gouvernement dans le domaine du pouvoir d'achat.
Éric Woerth avec Laurent Kramer. Pendant ce temps, les prix du carburant ne cessent d'augmenter. En une semaine, le litre de diesel a pris 3,82 centimes et le sans-plomb 2,13 centimes, car le baril de pétrole est reparti à la hausse, sans oublier que les taxes augmenteront l'année prochaine. Quand les prix montent, on parle de valse des étiquettes, mais à la pompe, les étiquettes changent à partir d'aujourd'hui. Harmonisation européenne oblige, les différents carburants porteront le même nom partout. Par exemple, le sans-plomb devient E5, le super E10 et l'éthanol E85, c'est écrit dans un rond. Le gasoil sera du B7, du B10 ou du XTL, écrit dans un carré. Et les carburants gazeux, du H2 ou du LNG, dans un diamant. Vous avez du mal à suivre, certains automobilistes aussi. J'ai testé pour vous, c'est notre rendez-vous du vendredi à 7h-ci. Pour France Inter, Frédéric Bourgade s'est rendu dans une station toulousaine.
Voilà, j'arrive à la station, il n'y a pas grand monde. Ah si, la petite dame là-bas.
Bonjour madame, vous avez l'air ennuyée.
Ben oui, je cherche là, je vois qu'ils ont tout changé.
Mais c'est la nouvelle signalétique de l'Europe ça.
Ah bon? Je suis pas du tout au courant. Et qu'est-ce que je dois mettre alors?
Ben ça dépend, votre voiture vous y mettez quoi en général?
Ben moi j'ai mis du 95. Hein.
Alors le 95, ça s'appelle maintenant je crois E10 ou E5.
Vous en êtes sûr? E10, E5, c'est quoi la différence?
E10, ça doit être de l'éthanol, c'est-à-dire du biocarburant.
Donc c'est moins cher, si je comprends bien. Et le reste, c'est quoi
hein? Le B7, là, c'est le diesel normal.
Oula.
Le B10, du diesel synthétique. Et le E85, c'est du super-éthanol.
Ils nous compliquent pas l'existence avec ça?
Un petit peu, mais enfin, c'est l'Europe. Hein. Eux, ils ont décidé ça.
Ah, l'Europe, que... d'accord, ok. Donc, bientôt, il va falloir être ingénieur pour mettre de l'essence. L'Europe, oui, d'accord.
Non, non, si vous êtes demain matin à Madrid, vous avez les mêmes repères qui vous permettront de savoir quel type d'essence vous mettez dans votre voiture.
Oui, mais enfin, ils ont que ça à faire à l'Europe. Oui, je sais bien que c'est pas à vous, excusez-moi. Mais bon, si je mets du B7 au lieu du E5, là, il se passe quoi alors dans ma voiture hein?
Ben, il se passe que si vous mettez de l'essence dans du diesel, par exemple, vous allez tout casser.
Ah oui, quand même. Bon, ben alors, écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vais demander à mon mari de mettre de l'essence, de s'en occuper. Et à l'Europe, merci encore. Je leur dis merci.
Voilà, un peu perdu cet automobiliste toulousain au micro de Frédéric Bourgade. J'ai testé pour vous sur France Inter à 13h11. Des tulipes géantes en bord de Seine, 33 tonnes d'acier et 10 mètres de haut, les tulipes de Jeff Koons qu'il a offert à Paris après les attentats du 13 novembre. Ces fleurs géantes seront installées dans les jardins municipaux du Petit Palais, pas très loin des Champs-Élysées. Annonce de l'adjoint chargé de la culture à Paris, Christophe Girard, venu l'annoncer en exclusivité sur France Inter. C'est à revoir sur France Inter. La politique est le champ du départ au Parti Socialiste. Départ de la rue de Solferino ce matin, direction Ivry-sur-Seine où est installé le nouveau siège du parti. Départ également du député européen Emmanuel Morel. C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Il annonce dans Le Monde, il quitte le PS, Laurence Perron. Emmanuel Morel représentait l'aile gauche du PS, il rejoint la France Insoumise.
Oui, l'eurodéputé a été très clair, ce n'est pas un départ, c'est une scission. Entendre par là, ce sont des divergences de fond qui l'ont conduit à partir. Et il emmène aussi le gros de ses troupes. Emmanuel Morel, on le rappelle, a été candidat au poste de premier secrétaire du PS. Son texte, L'Union et l'Espoir, parlait déjà de rapprochement avec la France Insoumise et critiquait vivement la ligne sociale-libérale dans laquelle, selon lui, le PS sous Hollande avait basculé. Il avait recueilli 18%. Hier, les militants socialistes, appelés à voter eux-mêmes sur la ligne politique pour les européennes, ont mis en minorité son texte d'orientation qui demandait notamment de sortir de l'alliance avec le PSE, le Parti Socialiste européen, censé être trop macro-compatible. En réalité, le choix de Morel était fait depuis plusieurs semaines. Il va monter un groupe socialiste au sein des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. La symbolique est forte, se réjouit Manuel Bompard, probable tête de liste aux européennes pour la France Insoumise.
Je pense surtout que la France Insoumise fait une nouvelle preuve de la centralité qu'elle a acquise aujourd'hui au sein de l'espace politique que certains appellent la gauche. Donc oui, il y a une dimension assez symbolique. Je pense que c'est la fin d'un cycle, qui est le cycle de la domination de la social-démocratie et l'ouverture d'un nouveau cycle que la France Insoumise, je crois, représente bien. Et je pense que Emmanuel Morel l'a bien compris.
Au PS, le coup est rude, mais il était attendu à Solferino ou Ivry. On fait le gros dos en attendant le discours du patron Olivier Faure demain midi à la Bellevilloise.
C'était Laurence Perron. Louis Alliot propose de conduire la liste du Rassemblement National aux européennes de mai 2019. Le député des Pyrénées-Orientales, compagnon de Marine Le Pen dans la vie civile, était invité de BFM TV ce matin. Il annonce qu'il briguera aussi la mairie de Perpignan dans 2 ans.
Le journal de 13h. Sur France Inter.
Deux êtres vivants du même sexe peuvent-ils donner naissance à une descendance? Des chercheurs chinois y sont parvenus en obtenant des souriceaux à partir de 2 souris femelles. Ces souriceaux devenus adultes ont pu à leur tour se reproduire. Ils ont donné naissance également les chercheurs à des souriceaux issus de mâles. Mais là, les bébés sont morts très rapidement au bout de 48 heures. Comment est-ce possible? Est-ce transposable à l'homme? Nous en parlons avec le généticien Axel Kahn. Bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur France Inter. Axel Kahn, je croyais que la reproduction des mammifères était sexuée, c'est-à-dire que, contrairement à des poissons ou des reptiles, il fallait un mâle et une femelle. C'est cette limite que les scientifiques chinois ont réussi à surmonter ?
Oui, vous avez raison. La reproduction est sexuée chez presque tous les vertébrés et chez tous les mammifères. Autrement, dans les autres lignages, la parthénogenèse, c'est-à-dire la reproduction uniquement à partir de femelles, est extrêmement fréquente, extrêmement normale. Et ce qui a été fait ici, c'est pour comprendre quel était le mécanisme empêchant les reproducteurs de même sexe de se reproduire ensemble, ce qui fait la reproduction sexuée, c'est d'arriver à faire naître des mammifères, des petites souris, de deux femelles, et ces petites souris ainsi nées sont totalement normales, se développent normalement, et ensuite se reproduisent normalement.
Alors Axel Kahn, qu'est-ce qui s'est passé? Où s'est donc déroulée la modification? Qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé un génome femelle en génome mâle? Qu'est-ce qui s'est produit?
Non, raison pour laquelle les femelles ne se reproduisent pas ensemble et les mâles ne se reproduisent pas ensemble est un phénomène qu'on appelle l'empreinte. C'est-à-dire que certains des gènes ne sont actifs que chez les mâles et d'autres gènes que chez les femelles. Et donc, pour faire un embryon et puis ensuite un petit viable, il faut, vous voyez bien, un complément du mâle et de la femelle, puisque ce ne sont pas les mêmes gènes qui sont actifs quand ils proviennent du mâle ou de la femelle. Ce qu'ont fait ici les chercheurs, ils ont pris d'un côté un ovocyte, d'un autre côté, ils ont pris des cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire un peu comme les cellules qui forment l'embryon, ou bien qui forment les cellules germinales, les précurseurs des cellules germinales. Et ils les ont modifiées, en particulier modifiant les gènes soumis à empreinte, ces gènes qui ne s'expriment pas de la même manière chez les mâles et chez les femelles. Et
c'est le complément, quoi.
Ils ont fécondé des ovocytes, des ovules, en quelque sorte, avec ces cellules souches embryonnaires modifiées, qui ont agi comme des spermatozoïdes, mais d'origine femelle, et c'est ainsi qu'ils ont obtenu ces petits souriceaux parfaitement viables.
Axel Kahn, des souris et des hommes, alors peut-on imaginer reproduire l'opération et que deux femmes humaines pourraient donner naissance à un enfant après cette modification, bien sûr?
On le pourrait, il faudra encore beaucoup de travail, ça n'est pas de demain la veille, mais on le pourrait. Comment s'y prendrait-on si deux femmes, on va dire deux femmes en couple par exemple, voulaient procréer ensemble, l'une fournissant l'ovule et l'autre fournissant l'équivalent d'un spermatozoïde? Eh bien, chez la deuxième, on prendrait une cellule de sa peau par exemple, on sait aujourd'hui très bien transformer cette cellule de peau en un équivalent de cellule germinale. Cette cellule germinale serait modifiée et elle pourrait être en quelque sorte un succédané de spermatozoïdes. Et donc la compagne A, fournissant l'ovule, serait fécondée par cette cellule souche modifiée de la compagne B et cela donnerait que des filles. Mais des filles, s'il y en a plusieurs, qui seraient toutes différentes. La grande loterie de l'hérédité jouerait naturellement. Ce n'est pas du clonage.
On imagine un délai, Axel Kahn?
Oh, écoutez, honnêtement, c'est en dehors des discussions sur le problème éthique,
évidemment,
je ne l'aborde pas ici.
Évidemment.
Mais sur le plan purement technique, il y a encore beaucoup de difficultés à surmonter, mais on va dire autour de 10 à 20 ans, c'est envisageable.
Le généticien Axel Kahn était l'invité du journal de 13h sur France Inter. Merci beaucoup et bonne journée à vous, Axel Kahn. Une citoyenne du Commonwealth, venue d'un pays fâché avec la France, va présider l'Organisation internationale de la francophonie. La Rwandaise Louise Mushikivabo a été élue ce matin au sommet de la francophonie à Erevan, en Arménie. Le choix peut surprendre car les relations sont tendues entre Kigali et Paris depuis le génocide rwandais il y a 25 ans. Mais justement, Emmanuel Macron essaie de réchauffer les relations avec Paul Kagame. Loin de la géopolitique, la francophonie, c'est aussi et heureusement de la littérature. Et c'est une belle représentante de cet espace francophone qui vient de recevoir le prix Nobel alternatif de littérature. On va dire comme ça, c'est Maryse Condé. Faute de prix Nobel officiel cette année, après une affaire de harcèlement sexuel autour du jury suédois, des bibliothécaires de Stockholm ont créé une académie éphémère. Cette académie vient donc de récompenser Maryse Condé
Condé est idée chez Jean-Claude Lattès, l'auteur de Ségou ou de La vie scélérate est née en Guadeloupe. Elle a vécu en Afrique. Elle a écrit notamment Ilana Mor-Youssef sur la colonisation et sur l'esclavage.
Oui, née à Pointe-à-Pitre il y a 81 ans, dernière d'une famille de 8 enfants, Maryse Condé est l'auteur d'une œuvre assez abondante, peut-être pas aussi lue et reconnue qu'elle le mériterait. Et peut-être est-ce dû au fait qu'elle a longtemps enseigné et vécu à l'étranger, en Guinée, au Ghana, au Sénégal et aux États-Unis, où elle a créé le Centre d'études francophones à l'Université de Columbia. C'est une saga historique en deux volumes qui l'a fait connaître il y a un peu plus d'une trentaine d'années, Ségou, qui évoque le lent déclin de l'Empire Bambara. Maryse Condé a souvent dit que c'est en arrivant à Paris pour y faire ses études qu'elle a pris conscience qu'elle était noire. Autrement dit, que sa couleur la marquait historiquement et socialement. Cette prise de conscience se fait en pleine effervescence post-coloniale. Elle fréquente alors les étudiants africains de Paris, découvre Aimé Césaire et surtout les travaux du psychiatre d'origine martiniquaise Frantz Fanon, dont elle se réclame jusqu'à aujourd'hui. Elle est l'auteur aussi de récits autobiographiques, Mes et Merveilles et La vie sans phare, F-A-R-D-S, dans lesquels elle parle de sa vocation d'écrivain, de sa recherche d'identité et de sa poursuite du bonheur. Elle a également été la présidente du Comité national pour la mémoire de l'esclavage.
Merci Ilana Mor-Youssef. Vous venez de joindre l'écrivaine Maryse Condé.
Depuis des années, j'écris et j'écris et j'écris et j'ai rempli de récompenses importantes. Donc, d'abord, j'étais étonnée, ensuite, j'étais très fière et très heureuse. Jusqu'alors, la voix de la Guadeloupe n'était pas entendue. Enfin, on commence à réaliser que la culture de ce petit coin de terre est intéressante.
Étonnée et heureuse, la Guadeloupéenne Maryse Condé qui vient donc de recevoir ce prix Nobel alternatif de littérature. Merci beaucoup Ilana Mor-Youssef. Après la disparition de l'opposant saoudien Jamal Khashoggi, qui a été sans doute assassiné au consulat saoudien d'Istanbul, la France veut que les faits soient complètement établis. Paris demande à Riyad une réponse complète et circonstanciée. Voilà ce que vient de déclarer le Quai d'Orsay. L'assassinat d'une journaliste bulgare, spécialiste des dossier de corruption il y a une semaine. La justice allemande annonce ce matin que le suspect qui s'était enfui en Allemagne sera extradé dans les 10 jours. Ce bulgare de 20 ans est inculpé de viol et de meurtre. Selon le procureur, il a déclaré qu'il ne savait pas qui était sa victime et qu'il l'a tuée alors qu'il était ivre et drogué. La chronique du Brexit et de son accouchement douloureux. Theresa May a réuni ses ministres hier soir en cabinet restreint. La première ministre essaie toujours de régler la question de l'Irlande du Nord. Quelle place pour la province qui a une frontière terrestre avec l'Irlande et donc avec l'Union européenne. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
En direct de Londres pour France Inter. Antoine, la réunion d'hier soir s'est mal passée car Theresa May avait une idée, un maintien provisoire de tout le Royaume-Uni dans l'Union douanière, sauf que ça ne plaît pas à tous ses ministres.
Oui, elle le reconnaît d'ailleurs, la première ministre. Il reste de gros problèmes à résoudre. Et pour sortir les négociations avec Bruxelles de l'impasse, Theresa May propose à son équipe une solution radicale, puisqu'il n'est pas possible de reconstruire une frontière physique entre le nord et le sud de l'île, puisqu'il n'est pas possible de donner à l'Irlande du Nord un statut différent du reste du pays, on peut peut-être, dit-elle, laisser l'ensemble du Royaume-Uni dans l'union douanière, avec les mêmes règles, les mêmes normes que dans le reste des États membres. Comme ça, plus besoin de contrôle, plus besoin de frontières, plus besoin de douaniers. Le problème, c'est que ce Brexit nouvelle formule ressemble de moins en moins à la rupture avec Bruxelles promise par le gouvernement. Ce ne sera qu'une solution à court terme, explique Theresa May, ça donnerait un coup de pouce économique, renchérit le ministre des Finances. Mais en face, les défenseurs d'un Brexit dur s'étranglent. Après Boris Johnson et David Davis cet été, deux autres membres du gouvernement menacent de démissionner. Et à la droite de la droite, Jacob Rees-Mogg s'insurge. Impossible, dit-il, d'accepter du temporaire qui dure.
Antoine Gignot, le correspondant de France Inter au Royaume-Uni. Vu de notre France laïque, il y a de quoi être étonné. Le pouvoir ukrainien est aux anges et les autorités russes sont furieuses après que l'église orthodoxe de Kiev a retrouvé son autonomie par rapport à l'église orthodoxe de Moscou. C'est la fin de 332 ans de tutelle russe sur l'église ukrainienne et c'est un événement politique alors que les relations entre les deux pays sont toujours très tendues. C'est aussi une réaction à l'instrumentalisation de la religion par la Russie. Décryptage avec Jean-François Colosimo, historien des religions.
L'église russe aujourd'hui à tout le moins sa hiérarchie, se présente comme violemment anti-moderne, passéiste, rétrograde, nationaliste, politisé. Donc, à partir de, je dirais, ce mauvais coup qu'a fait Moscou à Constantinople, Constantinople s'est senti libre d'entendre la volonté de nombre d'Ukrainiens de ne plus être mêlés en raison de leur foi aux problèmes actuels qui sont effectivement politiques et stratégiques entre Kiev et Moscou. C'est ça le fond de l'affaire. Et donc, en fait, il faut voir dans le geste, malgré tout, du patriarche de Constantinople, Bartholomée, une sorte de geste prophétique. On crève un gros abcès. Oui, l'ordre est mal vécu dans les églises orthodoxes. Oui, les tendances, finalement, nationalistes sont trop fortes. Oui, ces tendances nationalistes empêchent le témoignage de la foi. Il fallait stopper l'église de Moscou dans ses prétentions à une hégémonie qui, encore une fois, ne ressort pas du cadre de l'évangile.
Jean-François Colosimo, le directeur général des éditions du Cerf, il répondait à Béatrice Duguay. À l'instant, le Kremlin annonce que la Russie défendra les intérêts des orthodoxes en cas de trouble en Ukraine. La métropole de Bordeaux a dit oui. Les élus réunis autour d'Alain Juppé valident la vente des Girondins de Bordeaux au fonds d'investissement américain GACP. Les Girondins étaient propriétés de M6 depuis 20 ans. Ils sont rares, les Français, à faire la une de Time. Tout aussi rares, les footballeurs, car Time est un magazine américain. Alors quand il s'agit d'un footballeur français, il se passe vraiment quelque chose. Kylian Mbappé est donc à la une de Time cette semaine, présenté comme un leader de demain. Quelle semaine pour Mbappé ! 4 buts dimanche avec le PSG, 1 but hier soir avec l'équipe de France face à l'Islande en match amical à Guingamp. Il a aussi provoqué le second but. Sébastien Hazard, Mbappé ne se contente pas de marquer, il dope ses partenaires et il paralyse ses adversaires.
Il fallait voir le visage des spectateurs du Roudourou hier lorsque Kylian Mbappé est entré sur le terrain. Les Bleus étaient menés 2-0, mais pas grave puisqu'ils allaient pouvoir admirer le prodige parisien en action. Une ovation assourdissante, un peu comme si sa seule présence dépassait l'importance du match dans son ensemble. Personne évidemment ne pouvait imaginer le scénario à suivre pour les Bleus. Le jour et la nuit, tout simplement apathique sans lui, puis euphorique avec lui. L'influence de Kylian Mbappé finalement encore plus criante lorsqu'il n'est pas titulaire. Sur le premier but des Bleus, l'histoire se termine bien parce qu'il oublie tout de même Olivier Giroud, bien démarqué à 6 mètres des cages adverses. Mais sur le pénalty, l'attaquant parisien a montré pêle-mêle sa détermination, son sang-froid et son talent. Un vrai sans-faute, un joueur imprévisible, insiste Hugo Lloris. Hors catégorie, soulignait cette semaine Didier Deschamps, capable de changer la donne, le score, l'ambiance, tout ça en quelques accélérations seulement. Guingamp, Sébastien Hazard, France Inter.
13h27 sur France Inter, la météo.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, pruneau rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, c'est encore l'été.
Les températures gagnent encore quelques degrés, 22 degrés à Honfleur, 24 à Rouen, Nantes, Cannes, 25 à Paris et Grenoble, 26 à Mulhouse, Toulouse, 28 à Bordeaux, jusqu'à 29 degrés du côté de Mont-de-Marsan. Ce sera encore plus chaud samedi, mais dès dimanche, on se rapprochera des températures de saison. Côté ciel, beaucoup de soleil, avec quelques bémols tout de même, peut-être une averse sur l'ouest Corse, sur le Languedoc-Roussillon, du gris, quelques pluies sur les Cévennes, sur l'ouest de la Bretagne, du gris aussi avec quelques gouttes et du vent, ça peut souffler jusqu'à 90 km à l'heure. Samedi, ce sera à peu près pareil, large avantage pour le soleil. Et puis dimanche, changement d'ambiance avec le retour de la pluie, des pluies à nouveau soutenues et orageuses sur le Languedoc-Roussillon.